Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Alors nous recevons Simon Poppy, bonjour. Écologue, président de France Nature Environnement Région et à ce titre donc participant à de nombreuses instances de dialogue environnemental. Alors je ne les ai pas citées parce qu'elles sont impressionnantes. Alors France Nature Environnement est une des plus anciennes associations de défense de la nature. C'est une fédération, c'est-à-dire qu'au niveau national, les régions viennent comme des satellites. S'adjoindre, comme donc les fédérations régionales viennent s'adjoindre à la Fédération nationale. On lui doit un très grand nombre de victoires sur la défense de l'environnement. C'est né au camp, France Nature Environnement.
1968.
Oui, donc on était vraiment dans les débuts.
On a fêté les 50 ans.
Vous venez de fêter ça. Alors, donc, je vous laisse peut-être compléter un peu votre présentation ou celle de votre association.
Oui, si alors, c'est difficile de résumer, résumer 50 ans d'histoire d'un mouvement qui fait plusieurs milliers d'associations. Hein. FNE, au niveau national, c'est à peu près 6000 associations, à peu près 1 million de personnes. Et historiquement, on lui doit beaucoup, en particulier à son réseau juridique, qui est un peu la colonne vertébrale et la caractéristique de... France Nature Environnement, c'est le réseau juridique environnemental le plus important de France au niveau associatif. Et donc, ce mouvement a beaucoup accompagné la construction du droit de l'environnement en France, avec quelques dates symboliques. Hein, 1976, je rappelle, c'était la première loi française sur la protection de la nature. Le code de l'environnement en France, il date seulement de 2000. Voilà, donc France Nature Environnement, évidemment, s'est beaucoup impliqué dans l'élaboration, pour pousser à cette évolution-là. 2005, c'était la Charte de l'environnement qui est adjointe à la Constitution, donc qui a valeur constitutionnelle. 2007, c'était le Grenelle de l'environnement, etc. Il y a eu aussi beaucoup d'investissements dans l'élaboration des directives européennes, Natura 2000, avec les directives Habitat, Oiseaux, etc. Et puis historiquement, il y a beaucoup de grands dossiers FNE s'est beaucoup investi dans la création des parcs nationaux à une époque. Alors, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, mais ça a été des grands combats. Il y a eu les combats contre les algues vertes en Bretagne. Il y a eu la réintroduction de l'ours aussi dans les Pyrénées. Il y a eu beaucoup de dossiers chasse, tout ce qui est réglementation de la chasse. Il y a eu des dossiers miniers aussi.
La protection des fleuves également.
La protection des fleuves, alors avec des grands combats l'arrêt des grands barrages sur la Loire en 1994. On pourrait citer aussi le barrage de Sivens, hein, qui est plus proche de nous en Occitanie, où vous savez, je rappelle que Rémi Fraisse, qui a été tué dans ce combat, était membre de France Nature Environnement. Donc ça, c'était en 2014.
Et ce qu'il y a toujours d'intéressant dans France Nature Environnement, c'est qu'on a toujours cette dimension sauvegarde de l'environnement et donc éducation, d'une certaine manière, à un enjeu. Mmh. Et en même temps, on va jusqu'au règlement du conflit et on va jusqu'à la création de la loi, comme vous l'avez dit, si nécessaire.
Tout à fait.
On a un cheminement absolument complet et c'est quand même quelque chose d'assez novateur et exceptionnel, quoi. Je veux dire, ça n'existe nulle part ailleurs.
On est très attaché à la pluralité des modes d'action et à leur équilibre. Et donc, on est vraiment d'abord pour le dialogue, la participation, en fait, les fondements de la démocratie environnementale. Hein, vous savez, c'est d'abord l'accès à l'information, c'est la participation à la démocratie et c'est aussi l'accès à la justice. Ça, c'est les trois grands piliers de la démocratie environnementale. Et à France Nature Environnement, on travaille toujours un peu à l'interface entre, d'une part, la connaissance scientifique, le droit de l'environnement, Alors déjà, faire le lien entre les deux, c'est quelque chose qui est assez, qui n'est pas anodin, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la science, mais qui ne connaissent rien au droit, des gens qui travaillent dans le droit, qui ne connaissent rien à la science. L'idée, c'est de confronter les deux. Et puis aussi, il y a un troisième pôle, c'est la compréhension du fonctionnement des institutions et de comment ça marche, le système politique et l'idée de FNE. Donc c'est à l'interface de ces trois pôles d'arriver à agir en dehors des compétitions électorales, puisque la vie politique ne s'arrête pas juste dans le temps des élections. On peut aussi faire des choses entre deux élections, et donc c'est le rôle de FNE de...
Et ce que je voudrais dire, c'est que vous n'êtes pas seulement dans les bureaux et vous n'êtes pas seulement dans les ministères, dans les couloirs des ministères. Vous êtes en même temps une association de terrain, les pieds réellement dans le territoire. Et si on en arrive jusque là où vous venez de nous emmener, c'est parce qu'on connaît aussi localement, est imprégné du problème.
Alors, c'est là où cette ONG France Nature Environnement a une particularité par rapport aux autres grandes ONG, qui sont souvent des ONG anglo-saxonnes d'ailleurs à l'origine, hein, internationales, qui sont souvent très monolithiques et un peu descendantes. FNE, c'est vraiment un mouvement qui part des associations existantes dans les territoires, qui sont souvent très hétérogènes, qui ont des noms très variés, qui ne s'appellent pas FNE souvent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que c'est qu'FNE, mais en fait, en réalité, la plupart des assos qu'on a à côté de nous font partie du mouvement FNE. Et donc, c'est vraiment... FNE, c'est construit comme un château de cartes.
On peut citer quelques noms qu'on connaît bien. Eau et Rivière de France, par exemple. Loire-Vivante,
voilà, etc. Sait que, oui, et même Greenpeace fait partie du mouvement avec un statut un peu particulier. Et puis localement, chez nous, il y a beaucoup d'associations, de petites assos départementales ou de villages qui appartiennent au mouvement. Donc on se regroupe d'abord souvent au niveau départemental, ensuite au niveau régional et puis évidemment au niveau national. Alors juste un mot quand même sur FNE Occitanie Méditerranée, hein, qui est la fédération que je représente. Alors elle n'est pas à l'échelle de l'Occitanie en entier. C'est vraiment sur l'ex-Languedoc-Roussillon parce que c'est déjà suffisamment grand, 5 départements à gérer, et puis pour des bénévoles ça fait sinon après c'est des dimensions.
Donc on s'apercevra aussi au fil des problèmes que c'est souvent très différent entre la dimension Toulouse et la dimension
Donc nous, on s'est créé en 2013. En fait, il manquait une organisation collective pour porter la voix des assos militantes sur ce territoire, pour mutualiser aussi certains moyens, hein, créer des réseaux et notamment accéder à justice et donc avoir des juristes. Ça fait donc 10 ans. On fête nos 10 ans cette année et on a changé de nom parce qu'on s'appelait France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et maintenant on s'appelle Occitanie Méditerranée. Voilà, on regroupe aujourd'hui 51 associations sur le territoire et des adhérents individuels.
Alors aujourd'hui, on va aborder avec vous une question qui va nous occuper très longuement après les vacances, puisque c'est celle de l'eau. Alors on sait que notre région a été une des plus marquées par la sécheresse en France, que des mesures de précaution, de restriction ont déjà été prises. Alors vous avez toujours été actif au sein de FNE sur le problème de l'eau. Mais à vos luttes, sur le bon état des cours d'eau, ou même, on va parler par exemple de la remontée des rivières par les saumons. Vous avez aussi lutté contre les barrages. Enfin, vient s'ajouter donc ce combat d'une sécheresse historique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui par rapport à ça?
D'abord, il faut rappeler peut-être 2-3 éléments de contexte. On est dans un contexte, d'abord, où on a une sécheresse avec une très forte composante anthropique, c'est-à-dire qui est fortement liée aux usages, hein, et au fait qu'on consomme énormément d'eau. Et puis
qui est liée à l'homme.
Liée à l'homme et liée aussi au changement climatique, puisque la ressource se raréfie. Donc on a d'un côté une croissance des besoins et de la demande, et puis d'autre côté une raréfaction de la ressource. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux usages tels que l'eau potable, l'urbanisme, le tourisme, etc. Mais en réalité, le plus gros consommateur, ce qu'on ignore souvent, c'est quand même l'irrigation agricole, qui est en croissance forte. Et dans notre région du sud de la France, il faut se rappeler qu'en viticulture, avant 2006, l'irrigation était interdite. Et donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau.
On est dans les 60%, je crois, d'usage agricole.
Oui, alors ça dépend un peu des territoires. Mais, donc, c'est difficile de donner un chiffre. Mais clairement, le plus gros consommateur d'eau, et en particulier à la période sensible, c'est-à-dire l'été, quand on en a le plus besoin, et là où, notamment dans les milieux naturels, c'est là où vraiment l'agriculture prend la plus grande part. Et alors, dans le sud, on a des bassins versants qui sont tous en déséquilibre.
Alors, on va y venir plus tard, parce qu'on va expliquer un petit peu quel est le phénomène d'organisation de l'eau par bassin versant. Simplement, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la sécheresse. Donc, vous évoquiez le fait qu'on est dans une région où, effectivement, par exemple, on avait interdiction absolue d'irriguer les vignes. Et maintenant, on va être obligé de faire un certain nombre de choses qui étaient interdites, même pour l'obtention de l'AOC.
Oui, alors bon, la question des AOC, c'est particulier. Effectivement, d'ailleurs, il y a des évolutions. C'est un sujet en soi. C'est-à-dire que les AOC, jusqu'à maintenant, avaient des cahiers des charges très restrictifs, par exemple, en termes de variétés, de choix des variétés autorisées. Et aujourd'hui, il y a eu un moment donné où on s'est rendu compte que ça bridait un peu la possibilité de s'adapter face au changement climatique, puisqu'on imposait des cépages qui n'étaient pas forcément adaptés et qui pouvaient être très consommateurs d'eau. Mais ça, c'est des choses qui évoluent. En ce moment, il y a eu il y a une prise de conscience et donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Après, dans les solutions qui sont souvent avancées pour faire face à la raréfaction de l'eau. Évidemment, pour nous, l'enjeu, c'est l'économie et le partage de l'eau, mais souvent, nous, on nous présente des ce qu'on appelle les techno-solutions, c'est-à-dire beaucoup de stockage de l'eau. C'est vraiment le modèle, notamment espagnol, fait beaucoup de...
Alors, on va peut-être, avant d'en venir peut-être aux problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, justement sur le stockage de l'eau, les bassines, etc., j'aimerais que peut-être vous reveniez deux minutes sur l'exemple de l'organisation de l'eau en France. Donc, on a une organisation qui fonctionne à partir des bassins. C'est un modèle, et c'est un modèle que nous avons même exporté à échelle internationale. Alors, est-ce que vous croyez que cette organisation va être capable de répondre aux nouveaux enjeux qui nous attendent?
Alors, évidemment, quand on vu la tension qu'il y a sur la ressource et les pressions, il y a un très gros enjeu de gouvernance de l'eau. Nous, on milite pour qu'on respecte les instances multi-acteurs qui existent. Cette gouvernance de l'eau qu'on nous envie quelque part dans certains pays. Il y a effectivement des gens qui viennent copier ce qu'on fait en France avec les assises nationales de l'eau au niveau national, avec les comités de bassin, donc dans des grands bassins. Par exemple, nous, on est sur le bassin Rhône-Méditerranée. Et puis, plus localement, les commissions locales de l'eau à l'échelle de chaque bassin, de chaque sous-bassin versant. Par exemple, moi, je suis en commission locale de l'eau du fleuve Hérault. Voilà. Donc, il y a cette organisation qui n'est pas une organisation selon les frontières administratives, qui est une organisation qui suit les bassins versants, donc qui est beaucoup plus logique du point de vue hydrologique.
Et puis qui intègre les cultures aussi.
Voilà, et qui intègre tous les acteurs de manière relativement équilibrée, c'est-à-dire que notamment on peut avoir des sièges pour les associations environnementales. Évidemment, on n'est pas en majorité, il y a beaucoup les collectivités et puis il y a différents usagers. Donc nous, on milite pour qu'on préserve cette gouvernance de l'eau qui marche plutôt bien. Et je dis ça parce qu'il y a des velléités de systématiquement refaire le match en dehors de ces instances qu'on a constaté de la part notamment de la profession agricole avec le Varenne de l'eau.
Oui, alors donc, là, sur le domaine donc, du Varenne de l'eau, d'abord, expliquez-nous un petit peu ce qu'a été le Varenne de l'eau. Et puis, quand vous dites que le match se joue en dehors des instances réglementaires, on sait que, bien sûr, il y a eu une mainmise de la FNSEA sur la gouvernance de l'eau au ministère de l'Agriculture, et pourtant, il va falloir partager l'eau. Donc, quelles sont vos propositions ?
Alors, d'abord, le Varenne de l'eau, il faut savoir que France Nature Environnement a boycotté cette instance de concertation chapeautée par le ministère de l'Agriculture.
Alors, c'était quand ?
C'était récent, c'était en 2021, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Voilà. Le problème, c'est que pour nous, en fait, ça remet en cause le cadre des assises de l'eau de 2019 qui pour nous est l'instance légitime dans la gouvernance de l'eau parce qu'elle est multi-acteur, mais elle était chapeautée par le ministère de l'Environnement, et ce qui ne plaisait pas visiblement au ministère de l'Agriculture. Et donc, ils ont fait leur propre Varenne, voilà, avec une domination, évidemment, des intérêts agricoles sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Pour nous, en fait, ça a donné un recul politique en matière de politique de l'eau et d'adaptation, hein, puisque, sous couvert de, d'enrichir et d'accélérer la loi, en fait, ils ont fait que déstabiliser ce qui a été fait par les Assises nationales de l'eau pour promouvoir une fuite en avant dans la multiplication des stockages et puis une fuite en avant dans le tout irrigation. Donc ils ont
Il faut quand même se rendre compte que dans ce débat, le ministère de l'Agriculture était l'expression réellement du syndicat majoritaire qui était la FNSEA. Mmh. Et on sait, enfin, c'est pas tous les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont d'accord avec vous et qui, dès aujourd'hui, font des efforts et savent que demain, il faudra partager l'eau.
Bien sûr. Alors, on ne veut pas mettre tout le monde agricole dans le même sac. Mais bon, après, le syndicat majoritaire, quand même, a un grand pouvoir. Et effectivement, il existe aussi d'autres, comme la Confédération paysanne, par exemple, d'autres syndicats qui pensent autrement. Et notamment, donc, pour revenir au Varenne de l'eau, le problème, c'est qu'on oublie dans l'histoire l'importance de faire des économies d'eau. Et aussi de faire le lien entre la quantité et la qualité. Et à l'issue du Varenne de l'eau, il n'y avait absolument aucune incitation, notamment à l'agroécologie, ce qui, pour nous, est essentiel dans les facteurs d'adaptation nécessaires donc à l'évolution du monde.
Peut-être expliquez-nous un peu la différence, justement, en termes d'usage de l'eau entre l'agriculture industrielle et puis l'agroagriculture, puisqu'on les oppose régulièrement, mais... on ne se rend pas bien compte forcément de ce qui fait leur différence.
Mmh. Bon, alors nous, on préconise un changement du modèle agricole, en fait. Hein, si vous voulez, aujourd'hui, la solution qui est promue par tous, c'est faire des retenues et développer les réseaux d'irrigation. On peut se poser quand même la question de la nécessité de faire ça et questionner ce modèle-là, parce que le problème du stockage d'eau, c'est un cercle vicieux, en fait. Hein. Ça paraît résoudre le problème à court terme et à petite échelle, mais en fait, à long terme et à grande échelle, on se rend compte que ça a plutôt tendance à aggraver le problème par la poursuite de la destruction des écosystèmes, hein, puisqu'on prélève encore plus d'eau.
Expliquons un peu pourquoi. Mmh. C'est-à-dire que l'eau est retenue, donc elle ne s'infiltre plus. Elle ne vient plus renourrir.
Il y a beaucoup d'impact des stockages et des barrages. Je peux le faire. Oui, bien sûr. Alors bon, le truc, c'est que vous me demandez un peu de faire tout en même temps, là. Donc, c'est un peu difficile. D'abord, je voudrais dire que donc, je disais que le stockage de l'eau, c'était un cercle vicieux. Parce que ça crée une vulnérabilité, en fait. Hein. Le problème, c'est que ça donne un faux sentiment de sécurité aux gens qui utilisent ce système-là. Et ça crée aussi un déficit d'adaptation alternative. C'est ça, le problème. Donc, nous, on pense qu'il
faut... Mais qu'est-ce que c'est qu'un déficit
d'adaptation alternative. Alors attendez, je ne peux pas tout dire en même temps, donc il faut séquencer. Nous, on pense qu'il faut réduire d'abord la dépendance à l'irrigation. C'est-à-dire que s'il y a moins d'eau, il faut évidemment ne pas être dans une fuite en avant vers plus d'irrigation. Si vous avez moins d'eau et que vous demandez plus d'eau, il y a un moment donné où ça ne marche pas. Donc il y a des choix techniques qui peuvent permettre déjà de faire des économies d'eau, de revitaliser les sols, de faire des choix variétaux, etc. Il peut aussi y avoir des priorités, c'est-à-dire est-ce que la vigne, c'est prioritaire comme assolement pour l'alimentation. Est-ce que le maïs pour l'élevage, c'est prioritaire? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Et on pense que le modèle agricole, il doit s'adapter au volume prélevable et donc pas l'inverse. Ce n'est pas en fonction du modèle agricole qu'on doit définir la ressource en eau. Voilà. Maintenant, nous, on milite, en fait, on croit évidemment souvent que dans l'imaginaire populaire, si on stocke de l'eau, forcément, c'est une retenue artificielle. Mais il faut rappeler quand même que l'eau, elle se stocke naturellement dans les sols vivants, dans les nappes, dans les zones humides. Elles ont été en grande partie détruites, hein, à 87% dans le monde par rapport au XVIIIe siècle, selon l'IPBES, dont 50% rien qu'au XXe siècle. Et ça, c'était nos éponges naturelles. Et donc, avec cette vitesse de disparition qui reste encore aujourd'hui trois fois plus rapide que la déforestation. Donc, si aujourd'hui on manque d'eau, c'est pas juste à cause du changement climatique, c'est parce qu'on a détruit le potentiel naturel de stockage de l'eau de nos territoires. Et donc, nous, on estime que ce potentiel naturel, il est beaucoup plus grand que celui des barrages ou des bassines qu'on pourrait faire, qui pose en plus tout un tas de questions techniques, financières, écologiques. Et donc, on milite pour qu'on restaure ce potentiel naturel qui a été détruit. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ça consiste à empêcher les drainages de zones humides, par exemple. Ça consiste à restaurer des zones humides, à favoriser le rechargement des nappes, à rendre de la liberté aux cours d'eau et à prendre soin des sols ou à désimperméabiliser aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des solutions qui doivent être pour nous prioritaires sur la création de retenues de stockage et ce genre de techno-solutionnisme.
Alors, vous avez aussi, bien sûr, concernant les problèmes locaux, parce que là, on vient d'évoquer d'une manière un peu générale la manière dont fonctionnait le cycle de l'eau. Et on a très, très peu parlé de la région. On voit que, sur le plan régional, on assiste à une salinisation des terres et que on voit, par exemple, que en Camargue, le riz est en train de dépérir, que la vigne ici, le sel remonte dans les tiges et vient bloquer les cèpes. Alors, comment on peut aborder le sujet et qu'est-ce que ça, c'est un sujet qui va menacer toute une grande dimension économique de la région. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous préconisez?
Alors c'est un sujet qui est particulièrement grave. Après, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément uniquement lié à la hausse du niveau de la mer. Ça fait partie des problèmes et puis ça va aller en s'accroissant. Mais il y a aussi une question d'arrivée d'eau douce. En fait, on entend souvent dire que oui, l'eau douce qui part dans les cours d'eau, elle est perdue. En réalité, si on n'a pas de flux d'eau douce qui arrive à la mer et qui, quelque part, empêche la rentrée des eaux salées dans les terres et notamment au niveau souterrain, à ce moment-là, on a des phénomènes de salinisation et de nappes salées qui rentrent. Et ça, c'est lié non seulement au fait qu'on n'a pas forcément assez d'eau douce qui arrive à la mer, mais aussi parce qu'on surexploite les eaux souterraines sur les littoraux.
Voilà. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement un dysfonctionnement dans le barrage de la vague, mais il y a également une montée des eaux salées par les nappes phréatiques par en dessous.
C'est multifactoriel, si vous voulez, et le résultat, c'est l'avancée du biseau salé. Voilà, alors après, il y avait des pratiques, notamment dans cette région, notamment d'inondation des vignes sur le littoral pour essayer.
C'est ce qui se faisait par exemple à Sérignan.
Voilà, exactement. Alors en fait, on s'est rendu compte, il y a eu des études qui ont été faites de Supagro, notamment ici, qui ont montré qu'il y avait plein de facteurs simultanés qui faisaient qu'aujourd'hui, on a de plus en plus ce phénomène de salinisation. En fait, on se rend compte que le sel rentre par les cours d'eau, notamment parce qu'il n'y a pas suffisamment de débit. Mais ça, c'est quelque chose qui finalement est fait depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'on prélève trop dans les cours d'eau. Et c'est un phénomène qui s'est fait petit à petit parce que on utilise de l'eau des cours d'eau qui est faiblement salée et au bout d'un moment, ça s'accumule. Et par ailleurs, on s'est rendu compte qu'avec la mécanisation de l'agriculture, avant, on avait tout un réseau de rigoles et de fossés qui permettaient d'abaisser la nappe et qui ont été bouchés pour pouvoir plus facilement mécaniser, soit qu'ils se sont bouchés tout seuls. Et donc, on a eu aussi des remontées de nappes de sel sur ces secteurs-là. Et puis par ailleurs, en fait, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas intuitif, mais le changement climatique a augmenté la longueur de la saison et l'évapotranspiration estivale, ce qui fait que la technique d'inondation qui autrefois fonctionnait parce qu'on inondait le terrain et que ça permettait de passer l'été, qui était une période difficile, aujourd'hui la période sèche est tellement longue et tellement extrême que cette technique-là ne fonctionne plus. Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer les problèmes de salinisation sur le littoral. Après, il y a des facteurs aggravants aussi pour la salinisation, c'est l'utilisation d'intrants chimiques, le fait de ne pas avoir des sols vivants aussi, et puis évidemment la montée du niveau de la mer.
Bon, alors tout cela, effectivement, aujourd'hui, on le sait. Alors, est-ce que sur le plan local, les élus, les associations... les organes de concertation divers et variés qui existent, notamment au sein du Césaire, vont réussir à rétablir un équilibre ou bien est-ce qu'on s'oriente vers de plus en plus de maladaptations ou bien est-ce qu'on va avoir finalement des plans qui vont nous être proposés avec un décalage par rapport à l'urgence, sans doute, des situations.
Par rapport à la montée du niveau de la mer, vous voulez dire
ou par rapport à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer.
Ah, alors je...
Parce qu'on vient d'évoquer la sécheresse, on vient d'évoquer, c'est lié, tout est un peu systémique, effectivement. Donc, on a à la fois cette sécheresse, on a à la fois cette montée des eaux, on a à la fois ces mauvais écoulements. Donc, tout cela se retrouve justement dans une mauvaise gestion des territoires. Et est-ce que l'approche qui en est faite au niveau des organismes aujourd'hui prend en compte l'ensemble de cette complexité ou bien continue à fonctionner en silo comme anciennement?
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une fuite en avant vraiment technosolutionniste, c'est-à-dire on cherche des solutions techniques un peu présentées comme miraculeuses qui vont tout solutionner et surtout qui vont nous permettre de continuer comme avant sans trop changer. Alors, en matière d'eau en particulier, hein, donc on a parlé des stockages, il y a la réutilisation des eaux usées, c'est un peu pareil.
Pourquoi c'est pas une bonne idée, ça, la réutilisation des eaux usées?
La réutilisation des eaux usées, ça peut être une bonne idée, il faut vraiment regarder au cas par cas, mais en fait, ça s'applique surtout sur le littoral, là où l'eau qui sort des stations d'épuration n'a pas déjà un usage. Puisque dans nos arrière-pays, la plupart du temps, l'eau qui sort des stations d'épuration, elle a déjà un usage, c'est qu'elle sert au soutien d'étiage des cours d'eau. Et donc, si on prive les cours d'eau de cette eau-là, on crée des problèmes écosystémiques importants. Donc, voilà, ça, c'est la réut. Après, il y a des gens aussi qui veulent faire de la désalinisation de l'eau de mer. Bon, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui, en plus, consomme beaucoup d'énergie, qui produit des effluents qui vont être polluants, qui peuvent dégrader notre littoral. Donc, tout ça, c'est présenté un peu comme des solutions miracles, alors que la réalité, c'est qu'il va falloir faire beaucoup d'économies d'eau, surtout, et qu'il va falloir avoir une gouvernance de l'eau qui soit partagée et équilibrée pour que ça ne soit pas la guerre de l'eau. Et bon, là, actuellement, on voit que dans les Pyrénées-Orientales, on a un cas d'école de crise de sécheresse vraiment extrême. Et on voit bien qu'il y a un manque d'anticipation de la situation. On en est... Enfin, c'est comme si on découvrait le problème. Et donc, on est en gestion de crise. On est sur du court terme. On est vraiment à décider des choses dans l'urgence, alors que ça fait des décennies qu'on aurait pu s'y préparer, que ça fait des décennies qu'on alerte sur le sujet. Le GIEC en parle depuis longtemps.
Mais indépendamment de ça, est-ce que au moins on a saisi les erreurs? Est-ce que il y a une vision un peu des erreurs ou pas? Est-ce que ça commence à avancer un peu?
Ça vient très progressivement, mais j'ai parfois l'impression qu'il va falloir qu'on se fracasse contre le mur pour que vraiment il y ait une vraie prise de conscience. Et bon, c'est peut-être un peu pessimiste, mais bon...
C'est un peu vrai.
On a parfois besoin de faire des erreurs. Le problème, c'est qu'avec l'environnement, on n'a pas de deuxième chance. Et donc, les élus aujourd'hui qui ont à prendre des décisions pour notre avenir... ont une très grande responsabilité. Ils seront comptables. En fait, s'ils se plantent, ça aura des conséquences énormes, que ce soit pour l'occupation du territoire, pour nos enfants, pour les paysages et pour la vie de notre territoire.
Et vous gardez un rôle de guetteur sur des zones qui sont particulièrement sensibles, justement, sur le territoire?
Ah ben nous, bien sûr, on fait de la veille environnementale et on est là justement pour essayer d'influer un peu partout. On est un peu partout dans les commissions du dialogue environnemental pour essayer de faire évoluer les mentalités, d'alerter sur... essayer d'éviter que les gens prennent des mauvaises décisions. Après, malheureusement, on est souvent en minorité dans ce genre d'instance. Donc on est là pour prêcher la bonne parole, pour donner notre avis, mais pas forcément écouter. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le bulletin de vote. Et sans ça, évidemment, on ne peut pas aboutir à des changements radicaux. Je veux dire, il faut aussi que les gens se prennent en main. On ne peut pas, nous, associations, tout solutionner. On fait notre part. Mais il faut aussi que les gens soient responsables et se rendent aux urnes et votent correctement. Parce que sinon,
si on veut rejoindre France Nature Environnement et être utile à toutes les causes que vous défendez, comment peuvent-on faire?
Alors, on peut adhérer à une association membre du réseau, hein, il y en a plein sur notre territoire. On peut aussi adhérer directement à France Nature Environnement Occitanie Méditerranée. Alors, sur notre site internet, c'est facile. Hein, c'est, alors, ça s'appelle encore fne-languedoc-roussillon.fr, vous pouvez aller voir. Voilà, on peut participer à nos formations qui sont ouvertes à tous. On peut venir nous rencontrer, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, hein, sur Twitter, Facebook, Instagram, pour être un peu au courant, s'inscrire à notre newsletter qui s'appelle « Hérissons-nous ». Et donc, mettre le pied à l'étrier et venir éventuellement nous rejoindre.
Eh bien, merci, et puis bon courage.
Je vous remercie.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.